Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 94, Daf Tzadik Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Et même contre Rav Yehuda, il n'y a pas de question. C'est-à-dire la question que tu as posée, qu'une personne impure a la possibilité de rentrer dans la cour du temple au soir. Or d'après Rav Yehuda, le temps où on a le droit de rentrer dans la cour du temple, c'est même au soir, le temps où on a le droit de tant qu'on a le droit de manger du sacrifice de Pessah. Malgré tout, il n'y a pas de question. Pourquoi? Une personne qui est impure pour avoir touché un reptile, la Torah l'a repoussé et ne lui a pas permis de faire le sacrifice de Pessah, d'irtif, car il est écrit « Ish, ish, qui est amel anefesh » chaque homme qui serait impur pour avoir touché un mort. Et donc de là, « Milo askinan shechal shvish elo liot beref Pessah » ne parlons-nous pas aussi du cas d'une personne dont le septième jour de sa purification tombe la veille de Pessah et au soir il sera pur. Et donc c'est exactement comme le Tmesheres, une personne qui est impure pour avoir touché un reptile. Et malgré tout, Amar Rachmana, la Torah a dit, litre, il sera repoussé. Et donc c'est vrai qu'il pourra rentrer dans la cour du temple au soir, car il s'est purifié en journée, donc au soir il sera pur. Mais la Torah explicitement l'a repoussé et lui a interdit d'offrir le sacrifice de Pessah. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Tzadik Gimel. Et nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Tzadik Dalet. Nous sommes Daf Tzadik Dalet, Amud Alef, cinquième ligne. Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignaient. Haya Omed Chutz le Modim, s'il se trouvait à l'extérieur de Modim, c'est-à-dire plus loin de Yerushalayim que Modim, Ve'achol Ikanes Besusim ou Bepradim, et il peut en se dépêchant avec des chevaux et des mulets, rentrer à Yerushalayim pour offrir le sacrifice de Pessah, la veille de Pessah, Yachol Yehe Chayav, alors j'aurais pu penser que dans des conditions pareilles, il est obligé de se dépêcher et d'arriver la veille de Pessah à Yerushalayim pour pouvoir offrir le sacrifice de Pessah. Talmud Lomar, le verset nous dit, Ubederech Lohaya, et celui qui n'était pas en chemin alors et n'a pas offert le sacrifice de Pessah est passible d'une peine de retranchement. Vea Lohaya Baderech, or celui-là, étant donné qu'il se trouvait plus loin que Modim, ça s'appelle qu'il était en chemin, et donc il n'a aucune obligation d'offrir le sacrifice de Pessah, et il n'a pas d'obligation non plus de se dépêcher et d'arriver à Yerushalayim, même s'il en a la possibilité. Haya Omed Lifni Mina Modim. Par contre, s'il se trouvait plus près que Modim de Yerushalayim, Ve'en Yachol Likanes Mimne Gmalim Ukronot Ameagvot Oto. Mais il ne pourra pas arriver à Yerushalayim la veille de Pessah, au moment où l'on offre le sacrifice de Pessah, à cause des chameaux et des caravanes qui le font marcher doucement. Alors, Yachol lo yeh chayav, j'aurais pu penser que dans des conditions pareilles, il n'a pas d'obligation de se dépêcher d'arriver à Yerushalayim pour offrir le sacrifice de Pessah. Talmud Lomar, le verset nous dit, Ubederech lo haya, et il n'était pas en chemin. Et s'il n'a pas offert le sacrifice de Pessah lorsqu'il n'était pas en chemin, il est passible d'une peine de retranchement. Ve'arech lo haya baderech. Or, celui-là, étant donné qu'il se trouvait plus proche que Modin de Yerushalayim, cela ne s'appelle pas qu'il est en chemin, donc ça s'appelle qu'il n'est pas en chemin, et donc s'il ne se dépêche pas d'offrir le sacrifice, d'arriver à Yerushalayim pour offrir le sacrifice de Pessah, ça s'appelle qu'il n'était pas en chemin et qu'il n'a pas offert le sacrifice de Pessah, et donc il est passible d'une peine de retranchement. Amar Rava. Rava a dit, et maintenant nous revenons sur l'enseignement que nous avons vu plus haut. Shital fait passer ave alma. Le monde mesure 6000 parsa. Vesumcha de Rakia, alfe parsa. Et l'épaisseur du ciel est de 1000 parsa. Comment c'est-il cela? Chada Gmara, vechada Svara. Le premier enseignement, il a appris par une tradition, c'est-à-dire que le monde fait 6000 parsa. Et le deuxième enseignement, que l'épaisseur du ciel fait 1000 parsa, c'est un raisonnement. Pourquoi? Savarla, kiada amar rabba barbachana, amar rabbi Yochanan. Car lui, il pense le même enseignement que Rabba Bar Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan. Kama mahalach adam benoni beyom. Quelle distance un homme moyen parcourt en une journée? Eser parsaot, une distance de 10 parsa. Comment cela se départit? Mahalot ashachar vada netzachama, entre le lever du jour et le lever du soleil, chamesh milin, il fait 5000. Mishkiat achama atzet akochavim, Chamishamilin. Depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, il fait 5000. Or, chaque parsa, c'est 4000. Donc, en une journée où il y a 10 parsaot, il y a 40000. Et donc, entre le lever du jour et le lever du soleil, il fait 5000. Et entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il fait 5000. Donc, ça fait qu'il reste entre le lever du soleil et le coucher du soleil, 30000. Et donc, un homme parcourt entre le lever du jour et le lever du soleil, 5000. Et entre le lever du soleil et le coucher du soleil, 30000. Et donc, en fait, entre le lever du jour et le lever du soleil, il parcourt un sixième de la distance qu'il parcourt entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Et donc, Nimsa, il se trouve, au Vyoshel Rakia, Echad Mishisha Beyom, que l'épaisseur du ciel est un sixième de la journée. C'est-à-dire, entre le lever du jour et le lever du soleil, c'est le moment où le soleil traverse l'épaisseur du ciel. Or, nous avons vu que durant ce moment, un homme parcourt un sixième de la distance qu'il parcourt durant toute la journée. C'est-à-dire que ce moment dure un sixième de la journée. Et durant toute cette période de temps, le soleil traverse l'épaisseur du ciel jusqu'au moment où il sort et donc il y a le lever du soleil. Or, étant donné que le soleil va à la même vitesse durant tout son parcours, et que entre le lever du soleil et le coucher du soleil, il traverse 6000 passaot, qui sont la distance du monde d'après Rava, donc entre le lever du jour et le lever du soleil, où il y a un sixième du temps de toute la journée, il ne parcourra que un sixième de cette distance, c'est-à-dire 1000 parsa. Or, nous avons expliqué que durant ce moment, c'est-à-dire entre le lever du jour et le lever du soleil, c'est le moment où le soleil traverse l'épaisseur du ciel. Donc nous voyons que ce moment qu'il traverse l'épaisseur du ciel, il parcourt 1000 parsa. Donc de là nous apprenons que l'épaisseur du ciel est de 1000 parsa. Et nous continuons Bezrat Hashem, le shiur de Daaf, Tzadik Dalet. Nous avons vu à l'enseignement de Rava que le monde mesure 6000 parsa, et l'épaisseur du ciel est de 1000 parsa. Car l'épaisseur du ciel est un sixième de la distance de tout le monde, et la preuve en est que entre le lever du jour et le lever du soleil, c'est-à-dire le temps qu'il prend au soleil de traverser l'épaisseur du ciel, ce temps-là est un sixième du temps qu'il y a entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Alors, si la Gemara demande, mais tu Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, au Vyoshel Rakia, l'épaisseur du ciel, Echad Ma'asara Beyom. C'est un dixième de la journée entière. Teda, c'est-à-dire de la journée entière, c'est-à-dire entre le lever du jour et la sortie des étoiles. Pas entre le lever du soleil et le coucher du soleil, mais entre le lever du jour et la sortie des étoiles. Et la Gemara apporte une preuve, Teda, sache, Kama Ma'alach Adam Benoni Beyom, quelle est la distance qu'un homme moyen parcourt en journée, et Esser Parsaot, une distance de 10 parsa, qui correspond à 40000. Ou Me'alot HaShachar Adanet Sachama, et entre le lever du jour et le lever du soleil, Arba Milin, il parcourt 4000. Mishkat HaChama Vatzet HaKochavim, et entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, Arba Milin, il parcourt aussi 4000. Or, nous avons dit que entre le lever du jour et le lever du soleil, c'est le temps qu'il faut au soleil pour parcourir l'épaisseur du ciel. Et donc, Nimtet Ovioshel Rakel se trouve que l'épaisseur du ciel, Echad Ma'asara Beyom, est un dixième de la journée entière. Car durant toute la journée, c'est-à-dire entre le lever du jour et la sortie des étoiles, un homme parcourt 40000, et entre le lever du jour et le lever du soleil, un homme parcourt 4000. Donc en fait, l'épaisseur du ciel, c'est un dixième de toute la journée. Et maintenant, en quoi cela contredit les paroles de Rava? Car Rava lui a dit qu'un homme parcourt entre le lever du jour et le lever du soleil 5000, et entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles encore 5000. Et donc en journée, il parcourt 30000. Or, d'après Rabbi Yehuda, un homme parcourt entre le lever du jour et le lever du soleil 4000, et entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles encore 4000, ça fait 8000. Et donc en journée, il parcourt 32000. Et donc, d'après Rava, un homme parcourt en journée, entre le lever du jour et le lever du soleil un sixième de ce qu'il parcourt entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, un homme parcourt entre le lever du jour et le lever du soleil un huitième de ce qu'il parcourt entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Et donc, si le monde mesure 6000 parsas, alors l'épaisseur du ciel sera un huitième de 6000 parsas, et non pas un sixième de 6000 parsas. Donc cela refute les paroles de Rava. Ragma nous dit, Tiouvta de Rava, cela refute les paroles de Rava, ça c'est premièrement. Deuxièmement, Tiouvta de Oula, cela refute les paroles de Oula, qui Oula a dit plus haut, qu'un homme parcourait entre le lever du jour et le lever du soleil, 5 parsas. Ici, nous voyons que Rabbi Yehuda dit explicitement qu'un homme ne parcourt que 4 parsas. Tiouvta, en effet, cela refute. La Gemara demande maintenant, Lima Tiave Tiouvta de Rabbi Yochanan. Allons-nous dire que cela refute aussi l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui a dit qu'un homme parcourt en une journée 40 000, et cela a été expliqué 5 000 avant le lever du soleil et 5 000 après le coucher du soleil. Or, ici, nous voyons qu'un homme ne parcourt que 4 000 avant le coucher du soleil et 4 000 après le coucher du soleil. Amarlech, alors Rabbi Yochanan te dit non. Ana beyema maudamri. Moi, j'ai dit qu'un homme parcourt en une journée 40 000. Et cela correspond à l'enseignement de Rabbi Yehuda. Verabanan ou dekataou, et ce sont les sages qui ont expliqué mes dires qu'ils se sont trompés. Dekachash ban dekadma vechashoucha. Car eux, ils ont pris en compte les gens qui se levaient plus tôt pour prendre le chemin, et donc ils font en effet, qui marchent 5000 avant le lever du soleil, mais ils ne marchent que 4000 entre le lever du jour et le lever du soleil, et le 1000 en plus, ils le font avant le lever du jour. Et ils ont pris en compte aussi les gens qui continuent à marcher après la sortie des étoiles, même lorsqu'il fait déjà nuit. Et donc c'est vrai qu'ils marchent 5000 après le coucher du soleil, mais que 4000 entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, et encore 1000 après la sortie des étoiles. Donc en fait, ça ne refute pas les paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara demande maintenant, Lima Tiave Tuvta de Rabbi Hanina. Allons nous dire que cela refute les paroles de Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina lui a dit que la distance entre Sdom et Tsoar est une distance de 5000. Et cette distance a été parcourue par Lot et les anges qui l'ont accompagné entre le lever du jour et le lever du soleil. Or, nous venons d'apprendre qu'entre le lever du jour et le lever du soleil, on ne peut parcourir que 4000. Donc, en fait, ça refute les paroles de Rabbi Hanina qui dit qu'il y avait 5000. Alors, la Gemara répond, non, vayaitsushane, ils se sont dépêchés, c'est différent. Là-bas, les anges et l'autre se sont dépêchés. Et donc, c'est vrai qu'en temps normal, un homme parcourt 4000 entre le lever du jour et le lever du soleil. Mais dans le cas de l'autre, ils se sont dépêchés. C'est pour ça qu'ils ont pu parcourir une distance de 5000. La Gemara maintenant veut rapporter encore une autre preuve pour refuter les paroles de Rava qui nous disent que le monde mesure 6000 parsa. Tashma, viens écoute. Mitzrayim hi 400 parsa. Al 400 parsa. La surface de la terre d'Égypte est de 400 parsa sur 400 parsa. Ou Mitzrayim echad meshishim bekush. Et l'Égypte, c'est 1/60 de Kush. Vekush echad meshishim baolam. Et Kush, ce pays de Kush, c'est 1/60 de tout le monde. Veolam et tout le monde. Echad mishishim bagan. C'est 1/60 du jardin de Eden. Vegan et ce jardin. Echad mishishim ba'eden. Il c'est 1/60 du Eden en lui-même. Ve'eden et le Eden. Echad mishishim ba'geinom. C'est 1/60 de l'enfer. Nimtza kol ha'olam kulo. Il se trouve donc en fait que tout le monde qui dera le geinom. C'est comme le couvercle de l'enfer. Or, d'après cette braïta, étant donné que l'Égypte est 400 parsa sur 400 parsa, et que Kush est 60 fois plus grand que l'Égypte, et que le monde est 60 fois plus grand que Kush, donc c'est sûr que le monde mesure beaucoup plus que 6000 parsa. Donc Tiouvta, cela refute les paroles de Rava qui ont dit que le monde ne mesure que 6000 parsa. Tashma, la Gemara nous dit, viens écoute, je te ramène encore une autre preuve à l'encontre de Rava. Des Tané de Eliaou, car on enseignait dans la maison d'études de Eliaou. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Kol ha'yishuv kulo tachat kochav echad yoshev. Toute la zone habitée, se trouve sous une étoile. Teda, et la preuve en est, Sha'arei Adam noten enav bekochav, lorsqu'un homme regarde une étoile, Oler le mizrach omed kenego. S'il va vers l'est, il se trouvera toujours sous cette étoile. Le arba ruchot ha'olam, et de chaque côté de chaque point cardinal vers lequel il ira, Omer Kenegdo, il se trouvera sous cette étoile. Donc, Michal de Kola Yishuv Kulo, Tachat Kochav Echad Yoshev. Donc, il se trouve en fait que toute zone habitée se trouve sous une étoile. Or, une zone habitée, nous voyons déjà qu'elle mesure beaucoup plus que 1000 parsa. Et combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Des millions. On ne peut même pas les compter. Or, sous chaque étoile, il y a une distance de au moins 1000 parsa, si ce n'est plus. Donc, en fait, de là, c'est une preuve que le monde mesure beaucoup plus que 6000 parsa. Tioufta, en effet, cela refute les paroles de Rava qui a dit que le monde ne mesure que 6000 parsa. La Gemara nous dit, viens, il nous dit, encore une preuve. Tashma, viens, écoute. Egla batsafon veakrav badarom. La constellation d'étoiles du veau, qui correspond au signe du zodiaque du taureau, et la constellation d'étoiles du scorpion, qui correspond au signe du zodiaque du scorpion. Alors, le veau se trouve au nord, et le scorpion se trouve au sud. Et toute zone habitée dans le monde ne se trouve que entre ces deux constellations, entre la constellation du taureau au nord et du scorpion au sud. Et il suffit au soleil une heure pour parcourir toute la zone habitée du monde. Car le soleil ne parcourt la zone habitée du monde que durant une heure. Teda, sache, et je t'en amène la preuve, Shebechamesh, car durant la cinquième heure de la journée, Chama Bemizrach, le soleil se trouve à l'est, et donc il ne se trouve pas au-dessus de la zone habitée du monde. Ubecheva, et durant la septième heure, Chama Bemarav, le soleil se trouve à l'ouest, et pas au-dessus de la zone habitée du monde. Chatishesh, vechatisheva, Chama Omedet Berosh Kol Adam. Durant la moitié de la sixième heure et la moitié de la septième heure, le soleil se trouve au-dessus de tout homme. Et donc, durant cette heure-là, entre la moitié de la sixième et la moitié de la septième, qu'il faut au soleil pour parcourir toute la zone habitée. Or, cette zone habitée est de beaucoup plus que 2000 parsa. 2000 parsa. Et au soleil, il lui suffit de une heure pour parcourir cette zone habitée. Or, durant toute la journée, il y a 12 heures. Donc le soleil parcourt une distance 12 fois plus grande durant toute la journée. Donc de là, nous voyons que le monde est au moins 12 fois plus grand que la zone habitée dans le monde. Et donc, c'est-à-dire, beaucoup plus que 6000 parsa. Tiouvta, cela refute les paroles de Rava, qui a dit que le monde ne faisait que 6000 parsa. La Gemara nous dit, Tashma, viens écoute. Encore une preuve à l'encontre de Rava. Dama Rabbi Yochanan ben Zakkai, car Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, Machuva Ishivato Batkol Leoto Racha. Quelle réponse a donné la voix céleste à ce mécréant, à ce Racha, c'est-à-dire à Nebuchadnezzar? Besha Shahamar, au moment où il a dit, He'ele Albamoteav Edame Le'elion. Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l'égal du Très-Haut. Yatsta Batkol Ve'amrato. Une voix céleste est sortie et lui a dit à Nebuchadnezzar lorsqu'il a dit cette chose-là. Racha ben Racha. Mécréant, fils de mécréant.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Tzadik Dalet Amud Bet. Ben Beno Shel Nimrod Aracha, petit-fils de Nimrod, le Racha, Shimrid et Kol Haolam Kulo Alay Bemalchuto, qui a révolté tout le monde contre moi durant son règne. Kamash notav shel adam. Combien sont les années d'un homme? Shivim shana, 70 ans. Vim bigvurot. Et s'il arrive à la force, shmonim shana, il vivra 80 ans. Shneema, comme il est dit, yeme shenotenu bahem shivim shana, la durée de notre vie est de 70 ans. Vim bigvurot shmonim shana, et à la rigueur 80 ans. Or, minaret ad la rakia, entre la terre et le ciel, quelle distance y a-t-il? Ma'aler chamesh me'ot shana, la distance qu'un homme parcourt en 500 ans. Ve'ovio shel rakia, et l'épaisseur du ciel, ma'aler chamesh me'ot shana, c'est aussi la distance qu'un homme parcourt en 500 ans. Ou ben rakia le rakia, et entre chaque ciel, ma'aler chamesh me'ot shana, la distance qu'un homme parcourt en 500 ans. Ve'chen ben kol rakia ve'rakia, il en est de même entre chaque ciel, il y avait 7 ciels. Donc chaque ciel mesurait une distance de 500 ans. Et entre chaque ciel 500 ans, ça veut dire 1000 ans, fois 7, on arrive à 7000 ans, et toi tu me dis qu'en 70 ans, tu veux arriver chez moi? Ah, el Sheol Turad, el Yarketebo. Mais non, c'est dans le Sheol que tu es précipité, dans les profondeurs du gouffre. Et donc ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a répondu à Nebuchadnezzar. Et de cette braïta, nous voyons que la distance entre la terre et le ciel est la distance qu'un homme parcourt en 500 ans. Et Rashi nous explique que nous avons une tradition qui nous dit que la distance entre la terre et le ciel est la même distance d'un côté à l'autre de la terre. Et donc en fait, la largeur de la terre est la distance qu'un homme parcourt en 500 ans. Et donc c'est beaucoup plus que 6000 par ça. Et donc Tiouvta cela refute les paroles de Rava. Maintenant la Gemara rapporte une discussion qu'il y a entre les sages du peuple d'Israël et les sages des autres nations. Cette discussion se rapporte sur les étoiles. Il faut savoir que chaque constellation d'étoiles correspond à un des signes du zodiaque, et comme on le sait, il y a 12 signes du zodiaque. Chaque signe correspond à un mois. Et donc maintenant, l'Agma nous dit, Tanu Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Chachmei Israël Omrim, les sages du peuple d'Israël disent, Kalgal Kavua ou Mazalot Chozrim. Il y a dans le ciel comme une espèce de roue, et cette roue est fixe, c'est-à-dire elle ne bouge pas, et autour de cette roue, il y a les constellations correspondant aux signes du zodiaque. Et cette roue en elle-même ne bouge pas, mais Mazalot, les étoiles, c'est-à-dire chaque constellation d'étoiles correspondant à un des signes, c'est eux qui bougent, c'est-à-dire que lorsque le soleil tourne à l'intérieur de cette roue, alors chaque constellation d'étoiles accompagne le soleil jusqu'à arriver à la constellation d'après, et à ce moment-là, elle revient à sa place, et c'est la deuxième constellation qui continuera à accompagner le soleil jusqu'à arriver à la troisième constellation, et à ce moment-là, la deuxième reviendra en arrière à sa place, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le soleil tourne, et les constellations accompagnent le soleil jusqu'à arriver à la constellation d'après, mais la roue des constellations d'étoiles reste à sa place. Verachmei umot haolam omrim. Par contre, les sages des nations disent, Galgal choser ou mazalot gvuim. Les étoiles, les constellations d'étoiles sont fixes dans cette roue, c'est-à-dire elles ne bougent pas, et c'est la roue en elle-même qui bouge, c'est-à-dire elle, la roue entière, bouge. Et ce n'est pas qu'une seule constellation qui accompagne le soleil, mais lorsqu'une constellation bouge, toutes les constellations bougent. Amarav, alors Rav a dit, Tshuva le divrei, nous pouvons apporter une preuve à l'encontre des sages des nations, mais olam lo matzinu egla badarom veakra batzafon. Nous n'avons jamais vu que la constellation d'étoiles de veau, c'est-à-dire comme nous l'avons vu plus haut, comme nous l'avons rapporté plus haut, c'est-à-dire la constellation d'étoiles qui correspond au signe du zodiaque du taureau, se trouve au sud, et que la constellation d'étoiles du scorpion est au nord. Mais c'est toujours le contraire. Or, si la roue est fixe, et que si les constellations sont fixes dans la roue, et que la roue tourne alors, elle fait les quatre points cardinaux. Et donc, elle passe du nord à l'est, au sud, à l'ouest, et revient vers le nord. Donc, toutes les constellations devraient passer dans les quatre points cardinaux. Or, nous n'avons jamais vu une chose pareille, que la constellation du taureau se trouve au sud, et que la constellation du scorpion se trouve au nord. Matkifla Ravacha Bar Yaakov, alors Ravacha Bar Yaakov pose une question contre cette preuve, et dit maintenant peut-être, Kebutzina Derechaya, comme le pivot de la meule, Inami, ou alors Ketsinura Dedasha, comme le pivot de la porte. C'est-à-dire, une meule est faite de deux grosses pierres, qui rondes, qui sont trouées au milieu. Et au milieu, il y a un pivot. Or, chaque roue de la meule peut tourner, celle d'en bas, celle d'en haut, et le pivot, sans obligatoirement faire tourner les autres parties. Et il en est de même dans le pivot de la porte. Nous ne parlons pas ici d'une porte avec des gonds comme nous avons aujourd'hui, mais nous parlons d'une porte qui était sur pivot, c'est-à-dire que sur le pas de la porte, il y avait un trou, ainsi que sur le fronton de la porte, il y avait un trou, et dans la porte en elle-même, en haut et en bas, il y avait un petit bâton qui sortait, c'est-à-dire le pivot de la porte, et on mettait la porte dans dans le trou du pas de la porte et du fronton. Or, c'est très possible qu'on pouvait bouger la porte sans faire bouger le fronton qui était en haut, et on pouvait aussi laisser la porte sur place et faire tourner le fronton sur la porte, il n'y a aucun problème, sans faire bouger la porte. Et donc, on peut faire bouger l'un sans l'autre. Et donc, Rav Abba Yaakov dit, peut-être qu'il en est de même, que en fait, dans le ciel, il y a deux roues. La roue du soleil et la roue des constellations d'étoiles. Et ces deux roues se trouvent une à l'intérieur de l'autre. Et les deux tournent en même temps. Et donc, puisque les deux tournent en même temps, c'est impossible qu'on voit le scorpion au nord et le veau au et le taureau au sud. Car c'est vrai que les constellations tournent, mais étant donné que le soleil lui aussi tourne parallèlement à ces constellations, donc en fait, nous qui nous trouvons sur la Terre, nous voyons par rapport au soleil toujours ces constellations, toujours à la même place, alors qu'en fait, elles tournent. Et comme le soleil lui-même qui tourne et nous ne le voyons pas, ainsi ces constellations, elles tournent et nous ne le voyons pas. Et donc en fait, la preuve de Rabbi n'est pas une preuve. Maintenant, la Gemara apporte une autre discussion qu'il y a entre les sages du peuple d'Israël et les sages des nations. Chachmei Israël omrim, les sages d'Israël disent, Bayom chama me'alechet lemata min harakia. Durant la journée, le soleil traverse le ciel sous le ciel. C'est-à-dire que lorsque le soleil passe au-dessus de nous, il se trouve en dessous du ciel. Ou balayla, et la nuit, lemala min harakia. Il traverse au-dessus du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et lorsqu'il se couche, il monte au-dessus du ciel. Il retourne à l'est. Et à ce moment-là, il se lève à nouveau à l'est. Et les sages des nations disent, Bayom chama me'alechet lemata min harakia, que en journée, le soleil traverse la terre en dessous du ciel, ou balayla lemata min hakarka, et la nuit, le soleil passe de l'ouest à l'est, sous la terre. C'est-à-dire que le ciel se lève à l'est, et se couche à l'ouest, et lorsqu'il se couche, nous disons pas qu'il revient en arrière vers l'est, mais il continue son circuit sous la terre, et il revient vers l'est en traversant sous la terre. Amar Rebbe, Rebbe a dit, Venirin divrei midvarenu, et leurs paroles sont plus logiques que les nôtres. Et la preuve en est, Shebayom ma'ayanot sonenim, car en journée, les sources sont fraîches, ou balayla rotrin, et la nuit, elles sont toujours plus chaudes, car en journée, le soleil se trouve au-dessus du ciel, et donc éloigné de la terre. Par contre, durant la nuit, le soleil passe en dessous de la terre et réchauffe les sources. Et donc, c'est pour cela que à la fin de la nuit, les sources sont toujours plus chaudes que en journée. Tanya, la Gemara nous dit une braïta. Rabbi Nathan dit, Bimot ha-chama, durant l'été, chama me'alechet begova shel rakia. Et lui, il fait ressembler le ciel à une coupole. Et il dit donc que durant l'été, le soleil traverse le monde dans le haut du ciel, c'est-à-dire dans le haut de cette coupole. Les fichach, et c'est pour cela, kol ha'olam kulo roteach, tout le monde a chaud, car le soleil se trouve au-dessus du monde, ou ma'ayanot, et les sources qui sont dans la terre, son enim, sont fraîches. Par contre, bimot akshamim, durant l'hiver, chama me'alechet b'shipule rakia, le soleil traverse le monde sur le bord de cette coupole, plus proche de la terre et moins proche du monde. Les fichar, c'est pour cela, kol ha'olam kulo tzonen, tout le monde a froid, ou ma'ayanot, et les sources qui sont dans la terre, rotrin, sont chaudes. Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné, be'arba shvilin chama me'alechet, le soleil utilise 4 chemins. Nissan, Iyar et Sivan, durant les mois de Nissan, Iyar et Sivan, me'alechet barim, le soleil traverse les montagnes, kedel efasher et ashlagim, pour faire fondre les neiges. Tamuz Av ve'elul, durant les mois de Tamuz Av ve'elul, me'alechet ba'yishuv, là le soleil traverse la zone habitée, kedel efasher et ha'perot, pour faire mûrir les fruits. Tishrei ma'cheshvan ve'kislev, durant les mois de Tishrei, Cheshvan et Kislev, Ma'alechet bayamim, le soleil traverse les mers, kedei leyabesh et hanaarot, pour sécher les fleuves. Tevet, Shvat et Adar, durant les mois de Tevet, Shvat et Adar, ma'alechet bamidbar, le soleil traverse les déserts, shelo leyabesh et azraim, pour ne pas dessécher les plantations. Il est important d'expliquer, de préciser que toutes ces gmarotes ont un sens beaucoup plus profond que le sens simple que nous venons d'expliquer. Et c'est vrai que le sens simple que nous venons d'expliquer n'est pas toujours parfaitement compréhensible, mais lorsqu'on étudie ces gmarotes avec le sens beaucoup plus profond, alors à ce moment-là, tout est compréhensible et il n'y a pas de contradiction entre ces gmarotes et ce que l'on sait aujourd'hui sur le parcours du soleil, etc. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Rabbi Eliezer dit, Miskupata Azara Velachus, de la porte de la cour du temple vers l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons vu dans la Mishnah que quelqu'un qui se trouve en chemin éloigné et n'a pas pu offrir le sacrifice de Pessah est exempt d'une peine de retranchement. Et nous avons eu une discussion, qu'est-ce qui est appelé en chemin éloigné? Alors, d'après Rabbi Akiva, c'est à partir de Modin, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre Yerushalayim et Modin. Alors s'il est une distance plus éloignée que cela, ça s'appelle qu'il est en chemin éloigné. D'après Rabbi Eliezer, c'est toute personne qui se trouve à l'extérieur de la cour du temple, ça s'appelle qu'il est en chemin éloigné. Or l'Agma nous dit, Afalgav demase ail, et bien qu'il peut rentrer dans la cour du temple, s'il n'est pas rentré dans la cour du temple durant le moment où l'on doit offrir le sacrifice de Pessah, cela s'appelle qu'il était en chemin éloigné, et il est exempt d'une punition, d'une peine de retranchement. Et on ne lui dira pas, lève-toi et rentre dans la cour du temple pour offrir le sacrifice de Pessah. L'Agma demandit, ah bon? Ve'atania, pourtant nous avons enseigné dans une breita, Yehudi Arel Shelomash, un Shelomal, un juif non circoncis, qui ne s'est pas circoncis la veille de Pessah pour pouvoir offrir le sacrifice de Pessah, car il y a une loi qui nous dit que toute personne non circoncis n'a pas le droit d'offrir le sacrifice de Pessah. Et donc, celui-ci n'était pas circoncis, il ne pouvait pas l'offrir. Or, il aurait pu se circoncire et offrir le sacrifice de Pessah. Et malgré tout, il ne s'est pas circoncis. Anouche Karet, il est passible d'une peine de retranchement. D'ivrai Rabbi Eliezer, ce sont là les paroles de Rabbi Eliezer. Donc, nous voyons que on lui dit, va et circoncis-toi. Donc, de même, celui-ci qui se trouve à l'extérieur de la cour du temple, on devrait lui dire, va et rentre à l'intérieur de la cour du temple. Amarabaye, Abayadi. Derech rechoka letahor, ven derech rechoka letame. Ça, c'est une réponse qui a été rapportée plus haut, qui nous dit que la loi concernant le chemin éloigné, c'est pour les personnes pures, et la loi concernant le chemin éloigné ne se rapporte pas pour les personnes impures. C'est-à-dire que la loi d'une personne étant en chemin éloigné, c'est une loi seulement pour les personnes qui se trouvent en chemin éloigné, et on ne fait pas ressembler cette loi à toutes les autres lois concernant le sacrifice de Pessah. Et donc c'est vrai que pour une personne qui n'est pas circoncis, on lui dit « va et circoncis-toi », mais pour une personne qui se trouve en chemin éloigné, on ne lui dit pas « va et rentre dans la cour du temple », car on ne fait pas ressembler les autres lois de Pessah à cette loi-là. Rava Amar, Rava Adi, Tanaï, non. C'est une discussion entre Tanaïm et Tanaï, car nous avons dit dans une boîte. Hein. Rabbi Eliezer dit, Ne'emar ichuk makom bepesach. Il est écrit un chemin éloigné à propos du sacrifice de Pessah. Ve'ne'emar ichuk makom bema'aser. Il est dit à propos du ma'aser de la dîme aussi un endroit éloigné. C'est-à-dire qu'à propos du ma'aser, il est dit que qu'il y a une loi qui nous dit qu'on doit amener le ma'aser chéni, la seconde dîme, à Yerushalayim et la manger à Yerushalayim. Et si une personne se trouve dans un endroit éloigné de Yerushalayim et ne peut pas la porter immédiatement et la manger à Yerushalayim, alors il aura le droit de la racheter. Et qu'est-ce qui est appelé un endroit éloigné à propos de la seconde dîme? À l'extérieur de Yerushalayim, c'est-à-dire à l'extérieur de l'endroit où on a le droit de le manger. Et donc Malalan, de même que plus loin à propos de la seconde dîme, est appelé un endroit éloigné, Chutz Le'Achilato, à l'extérieur de l'endroit où on a le droit de le manger. Afkan, de même ici, à propos du sacrifice de Pessah, Chutz Le'Achilato est appelé un endroit éloigné, tout ce qui se trouve à l'extérieur de l'endroit où on a le droit de manger, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'extérieur de Yerushalayim est appelé un endroit éloigné. Ça, c'est ce que la Braïta rapporte au nom de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de Yerushalayim est appelé un endroit éloigné. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Omer Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda lui dit au nom de Rabbi Eliezer, Chutz Le'Asiato à l'extérieur de l'endroit où on a le droit d'offrir le sacrifice de Pessah est appelé un endroit laine, c'est-à-dire à l'extérieur de la cour du temple. C'est-à-dire que nous voyons ici une discussion dans les paroles de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui est appelé un endroit éloigné? D'après Tana Kama, c'est à l'extérieur de Yerushalayim, et d'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, c'est à l'extérieur de la cour du temple. Et donc, d'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de la cour du temple, on ne lui dira pas, va et rentre dans la cour du temple pour offrir le sacrifice de Pessah. Par contre, d'après Tana Kama, dans les paroles de Rabbi Eliezer, si quelqu'un se trouve à l'extérieur de Yerushalayim, on lui dira, va et rentre à Yerushalayim pour pouvoir offrir le sacrifice de Pessah. Et s'il n'est pas rentré, il sera passible d'une peine de retranchement, de même que l'on dit à une personne qui n'est pas circoncis, va et circoncis-toi. La Gemara demande maintenant, Keman Azla Ad Amar Rabbi Yitzhak Bar Rabbi Yosef, quelle opinion suisse qu'a dit Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yosef, Betmeim Alach Achar Rov Amdim Bazara, qu'il y a une loi qui nous dit que l'on a le droit d'offrir le sacrifice de Pessah en état d'impureté, si la majorité du peuple est impure. Et maintenant, qu'est-ce qui est appelé la majorité du peuple? Alors, nous suivons la majorité des personnes qui se trouvent dans la cour du temple. Alors, Keman, quelle opinion ça suit-il? Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ça suit l'opinion de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Car tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de la cour du temple sont appelés dans un endroit éloigné et n'offrent pas le sacrifice de Pessah. Donc, ceux qui rentrent en compte, c'est seulement ceux qui se trouvent à l'intérieur de la cour du temple. Chez Amam Jo Rabbi Eliezer, qui a dit au nom de Rabbi Eliezer. Amar lo Rabbi Yossi. Maintenant la Gemara apporte un extrait de la Mishnah. Rabbi Yossi lui a dit, les fichach, et c'est pour cela avec Olé, etc. C'est-à-dire que Rabbi Yossi a dit, c'est pour cela qu'il y a un point sur le hé, pour nous dire que nous ne parlons pas qu'il est vraiment en chemin éloigné, derrière Rechoka, sur le hé de Rechoka, pas qu'il est vraiment en chemin éloigné, mais que même s'il est à l'extérieur de la cour du temple, ça s'appelle qu'il est dans un endroit éloigné. Alors Tania nous a enseigné dans une braïta. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, derech, il est dit en chemin, shomani ma'alach shnaim o shlosha yamim. De là, en chemin, ça veut dire qu'une personne qui se trouve à une distance de 2 ou 3 jours. Kshehu Omer, lorsqu'il est dit, ubederech lohaya, et en chemin, il n'était pas, mais Guy, cela vient nous apprendre, chez Miskupat, Azara, Velachutz, Kaoui, Derer, qu'à partir de la porte de la cour du temple et vers l'extérieur, c'est déjà appelé un chemin éloigné. Et nous avons fini ici, le shiur de Daf, Tzadik Dalet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.